Émission L'Enjase, qui sera suivie comme à l'habitude du retour de Gravel. Audrey sera encore absente, par contre, des petits problèmes de santé pour notre pinchon. Il envoie plein d'amour et plein de positivisme dans l'émission. Francis Gosselin, 16h30, on va parler évidemment de cette mise à jour économique au niveau du gouvernement canadien. Alex Leblond sera là également vers 15h30 pour parler de ces jeunes qui souhaitent une retraite à un jeune âge pour profiter de la vie. C'est encore possible avec l'augmentation du coût de la vie?
Ça fait tellement effet boule de neige, les gens qui disent « Mais voyons que vous faites des articles de même, ben c'est de mettre un peu du stress sur les épaules de d'autres jeunes qui n'ont pas ramassé 146 000 à 25
ans. » Bien hâte d'entendre justement Alex Leblond à cet effet. Mathias Turcotte est sur le terrain. Il va aux conférences de presse. Et là, Mathias est allé à une annonce très, très, très positive, c'est-à-dire une première maison des aînés en collaboration avec le privé. Puis là, juste ça, moi, Pascal, je capote, parce que vu que ça coûte 1 million de la porte, je sais qu'au privé, ça coûtera pas ça. On est déjà gagné.
Habituellement, on est sur une note positive. Hein?
Non, yes, sir!
C'est une première au Québec, en fait. Là, c'est la première maison des aînés en collaboration avec le privé. On a de quoi de similaire dans les CHSLD. Mm-hmm. On a laissé tomber les CHSLD, mais on avait des CHSLD privés conventionnés qui étaient aussi des CHSLD en collaboration publique-privée. Maintenant qu'on est passé aux maisons des aînés, pour l'instant, on les faisait uniquement 100% public. Puis là, ben, ça va changer à partir de maintenant, en collaboration avec Desjardins à Lévis. C'est le centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis qui s'en venait désuet, qui va être remplacé justement par la nouvelle maison des aînés. L'ancien CHSLD, donc le centre d'accueil, comptait 157 lits. On va le remplacer avec la maison des aînés à 180 lits.
Bon, avec le vieillissement de la population, déjà plus de place. Premier point positif.
On en a 23 de plus. C'est un projet de 107 millions de dollars au total. Construction, bâtiment, tout ça, ça appartiendra à Desjardins. Ce qui va faire en sorte qu'en moyenne par porte, ça coûte quand même cher, là, mais en moyenne par porte, c'est 590 000 dollars.
C'est moins qu'un million.
On est en moyenne à 800 000 $.
Presque à la moitié.
Exactement.
On est content.
On vient de baisser beaucoup les coûts. Puis c'est justement ce que la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, expliquait aujourd'hui. La collaboration avec le privé, ça permet d'aller chercher plus d'efficacité pour le projet. Je vous laisse entendre.
Bien, en fait, c'est une meilleure efficacité. On le sait que le privé ont des règles qui ne sont pas les mêmes règles qu'au niveau ministériel, où il y a beaucoup de normes, de standards, et ça fait que les projets sont beaucoup plus longs. Puis plus les projets sont longs, bien, plus il y a risque de mettre de l'argent. C'est juste normal.
Es-tu en train de planter son propre gouvernement en disant que le privé a des règles plus flexibles, donc c'est plus rapide, moins long, puis ça coûte moins cher?
Je pense qu'elle est juste honnête. Puis moi, ce que j'aimerais, là, Jeff, là, puis Matt, là, c'est d'avoir deux belles feuilles devant moi avec les exigences ministérielles et celles qui ne sont demandées au privé, puis qu'on fasse... Ouais. Ah non, ça, c'est vraiment important.
Si on enlève ça, ah, ça va nous coûter 500 000 de la porte au lieu de 800 000.
Je sais pas si c'est possible, Matt, pour toi, là, d'avoir un semi-quelque chose à un moment ou la semaine prochaine, mais on aurait un bel exercice parce que sinon, gênant.
Oui, parce qu'on le sait, là, c'est des documents, puis de la paperasse, puis de la paperasse, puis ça fait en sorte que toutes les entreprises privées qui soumissionnent pour faire des projets de construction au gouvernement soumissionnent toujours plus cher. Donc, juste ce fait... que c'est une entreprise privée qui s'occupe de la construction, on vient réduire drastiquement les coûts juste avec cette portion-là du projet.
Puis en passant, le privé, des fois, pèse sur le crayon aussi. Là. On l'a vu dans plein de dossiers comme le technologique et tout ça. Mais bon, ça, c'est flagrant.
Bon, fait que là, plus de lits, moins cher, le privé qui va le gérer, fait qu'on sera pas pogné dans des projets de convention dans plus finir. Coudonc, on va s'en faire d'autres au Québec?
Bien, la question se pose. C'est un système qu'on va vouloir implanter un peu partout. Aujourd'hui, la ministre Bélanger ne voulait pas nécessairement annoncer d'autres projets. Par contre, à la suite d'une de mes questions, elle a pris le temps d'affirmer que pour elle, le gouvernement ne doit pas nécessairement tout faire tout seul. Je vous laisse l'entendre.
Est-ce que vous pensez comme société que le gouvernement doit tout faire à tout prix dans toutes les sphères de la société? Là, on parle des aînés aujourd'hui, mais on peut parler de n'importe quel autre programme. Puis la réponse, bien, je suis obligée de vous dire que c'est non. Alors, il faut continuer d'évoluer vers des modèles de collaboration. Je ne suis pas en train d'ouvrir la porte au privé quand je dis ça, mais des modèles de partenariat, il y a de la place pour innover, puis on est capable de faire mieux que ça au Québec encore.
La CAQ vient de recommencer à me parler. Moi, l'électeur qui se cherche, que se passe-t-il avec ce parti politique? Ah, attends, zéro député présentement sur Québec 125.
Elle dit on a besoin d'innover. Malheureusement, moi, ce que j'entends, c'est qu'on n'a pas le choix en ce moment d'y aller de cette manière-là.
Avec le déficit monstre qu'on a.
C'est pas nécessairement de l'innovation, c'est pour faire avancer les affaires.
Puis on veut chercher des partenariats publics-privés. On a précisé, pas 100% privé. Par contre, il faut dire, ça ne paye pas toujours lorsque le gouvernement délaisse à quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Par exemple, on crée de plus en plus de sociétés d'État en ce moment, à Santé Québec, par exemple. Ça ne marche pas nécessairement mieux en santé. Donc, ce n'est pas nécessairement un synonyme de réussite, mais lorsqu'on voit qu'on est capable de baisser les coûts comme ça, drastiquement comme ça, c'est sûr que ça peut être une option à envisager du côté du gouvernement.
En passant, parenthèse, jeudi 13h30, je vais vous présenter avec mes collaborateurs notre projet de soigner des femmes défavorisées qui n'ont pas de médecin de famille en Basse-Ville de Québec avec la Fondation, le Fonds philanthropique Catherine Guillet. On a fait ça sans Santé Québec.
Ça, j'avais vraiment hâte qu'on en parle en ondes. Pour
13h30.
Vrai, jeudi
13h30, exactement. Soyez là, on fait une petite activité de financement en même temps. Pour s'assurer de la pérennité du projet. Bon, t'étais en Chaudière-Appalaches.
Oui.
T'étais chez Desjardins.
Oui.
À Saint-Joseph-de-Lévis. Moi, je pense à quelqu'un, Bernard Drainville, le député de Lévis. Étais-tu là, mon ami Bernard?
Bien sûr qu'il était là, puis on l'a pris en scrum par la suite pour lui poser des questions reliées à l'actualité, notamment la visite de Christine Fréchette aux États-Unis, qui on se rappelle, Bernard Drainville est maintenant ministre de l'économie. Il a été...
Attends. Super ministre de l'économie, de l'énergie. Là, il n'a pas fait une course à la chefferie pour juste être un ministre. Il est un super ministre.
Un titre plus glorifié.
Merci, Mathias, de te corriger.
Il a été questionné à réagir à la mission, justement, de la première ministre qui est au sud de notre frontière. Puis, il a retenu un point en particulier, notamment relié à la gestion de l'offre, justement. Je vous laisse entendre.
Sur la gestion de l'offre, ce qui est ressorti de cette rencontre-là, c'est que ça semble pas, jusqu'à maintenant, en tout cas, une priorité pour les Américains de faire des gros gains sur ce plan-là. Donc ça, pour notre ruralité puis notre monde agricole, je pense que c'est une bonne nouvelle.
Mais c'est intéressant ça parce que ça fait, j'ai envie de dire, plusieurs mois qu'on entend dans les négociations, puis même dans le discours de Trump, on peut le voir, c'est comme si la gestion de l'offre, c'était... Un des aspects importants que les Américains voulaient gagner. Dans du moins la communication qu'on fait aux médias américains, c'est ce qu'on laisse sous-entendre du côté du gouvernement américain. C'est là qu'on voit qu'il y a peut-être des fois une différence entre les discussions qu'il y a en privé entre les politiciens puis ce qu'on veut laisser transparaître comme message du côté des médias, qu'est-ce qui peut nous faire gagner auprès de la population. Puis si on écoute Bernard Drainville, lui, selon ce qu'il a entendu, c'est pas nécessairement une priorité américaine de gagner sur la gestion de l'offre.
Bien, tant mieux à souhaiter que ça va justement rassurer nos agriculteurs. On le sait, Christine Fréchette en a encore parlé hier, que deux points qui sont non négociables, la gestion de l'offre et la langue. Mathias, merci beaucoup pour cette présence à cette très belle annonce, cette annonce qu'on va souhaiter qu'il soit une série d'annonces dans ce genre de partenariat privé-public. Bon, on va parler des vraies choses en finissant cette émission-là.
Ça veut dire là,
Noah Dobson a manié une rondelle. Josh Anderson puis Yoram Slavkovski étaient absents de l'entraînement.
Ben oui, tu vois quoi là-dedans?
Ben, c'est ça, on va poser la question à notre chroniqueur sportif Alex Laramé. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il est là à Montréal. On est-tu énervé? Mais c'est même pas à soir, c'est demain le match. Donc, on va parler aussi des matchs de ce soir, notamment des Sabres de Buffalo qui peuvent éliminer les Bruins de Boston.
Une chance que les Nordiques sont plus là. Vous péteriez du cœur.
Ah, d'ailleurs, tantôt, Jérôme m'a écrit par texto. Hey, si les Nordiques étaient encore là, ils seraient déjà éliminés. Jérôme, t'es juste un maudit partisan du Canadien.
Jusqu'à